Radio Kapi. Oh, Kapi.
Un calme relatif règne ce mardi dans certains villages de la province du Kwango où il y a eu affrontement le week-end dernier entre les éléments du groupe armé Mobondo et les forces de l'ordre. Le ministre de la Sécurité du Kwango appelle la population au calme car les forces de l'ordre contrôlent la situation, dit-il. Il y a du maïs dans plusieurs provinces de la RDC, dont la Tchopo et la Mongala, pour mettre fin à la pénurie dans le Grand Katanga et le Grand Kasai. C'est en gros les propos de l'ingénieur doctorant André Kangaelako, agriculteur et propriétaire d'une plantation dans le territoire d'Isangi, province de la Tchopo. Pour lui, il suffit de résoudre le problème d'évacuation des produits agricoles. Patien Ibondo est l'invité de ce journal. Il est le président du Festival de communication de l'Université chrétienne bilingue du Congo à Beni, au Nord Kivu. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. Dans la province du Kwango, une accalmie relative règne ce mardi dans les villages Bachongo et autres. Après les affrontements le week-end dernier entre les miliciens du groupe Mobondo et les forces de l'ordre, faisant une dizaine de morts, certains habitants commencent à retourner timidement dans ces villages et la circulation a repris. Le ministre provincial de la Sécurité du Kwango, Noël Lumbu, qui le dit, appelle la population au calme car les forces de l'ordre contrôlent la situation. Irène Boma.
Après ces violences qui avaient éclaté vendredi et samedi dernier sur la RN1 au village Mongata qui relie Kinshasa et la province du Kwango, ainsi qu'à Bachongo situé dans les territoires de Kenge au Kwango, la situation sécuritaire est à présent calme et sous contrôle des éléments des forces de l'ordre. Selon le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Kwango, la population commence à retourner timidement à Bachongo qui a été complètement vidée de ses habitants, fuyant cette tuerie des assaillants du groupe armé Mobondo dans d'autres entités, notamment à Kengeville. Cette population étant jusque-là dans la psychose, Noël Lumbu l'appelle au calme et à la vigilance.
Non, la situation est sous contrôle. Il y a une accalmie, sauf que la psychose gagne le terrain. Tu vois que la population parfois n'a pas la bonne information. Non, nous l'invitons à la vigilance et au calme puisque nos éléments sont sur le terrain. Les populations de Bachong ont commencé déjà à rentrer depuis hier. La circulation a repris.
S'agissant de la prise en charge humanitaire des milliers de nouveaux déplacés venus de ces villages touchés par l'insécurité, le ministre Lumbu indique que cela nécessite beaucoup de moyens pour que la province puisse subvenir à leurs besoins. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, de nouveaux affrontements ont opposé hier lundi le groupe d'autodéfense Niatura aux éléments du M23 dans deux villages, Kausa et Rushinga. Des villages situés non loin de Kilolirwe sur l'axe Sake-Kichanga dans le groupement de Bachalika-Embe dans le territoire de Masisi. Ces affrontements ont encore occasionné un nouveau mouvement des populations qui retournaient déjà dans ces villages.
Les sources locales dans la zone de Kilolirwe affirment que le groupe d'autodéfense Niatura s'est affronté aux rebelles du M23 basés dans des collines de Kilolirwe. Toujours selon ces sources, ces affrontements qui ont duré plusieurs heures ont provoqué une panique au sein de la population de deux villages, Kausa et Rushinga, des populations qui venaient d'ailleurs juste de retourner dans les dix villages, ce après plusieurs mois de refuge dans les sites de Boulengo et autres autour de Goma. Certains habitants se sont dirigés vers le camp de militaires burundais de l'EAC, tandis que d'autres ont pris la direction de Sake et Kichanga. Présentement, selon nos sources, il est difficile de savoir le bilan de ces affrontements, vu que la zone est sous occupation des hommes armés. Des sources de certaines organisations humanitaires œuvrant dans la zone parlent de morts et quelques blessés qui seraient acheminés à l'hôpital Sebekandocho à Goma. D'autres sources dans la zone révèlent les constats d'un présumé renforcement des éléments M23-RDF sur l'axe Kichanga-Kilolirwe et dans le groupement Bishusha dans la chefferie Buito. Les rebelles qui renforcent ces positions seraient déguisés en civils pour la plupart. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Dans la ville de Beni, deuxième jour ce mardi du mot d'ordre de ville morte décrété par la société civile pour décrier la montée de l'insécurité dans la ville. Les activités restent paralysées bien que les forces de l'ordre soient déployées dans certains coins chauds de la ville. Marc Marufimbo a fait la ronde de la ville peu avant midi. Voici son reportage.
Au centre-ville de Beni, une reprise timide des mouvements d'engins roulants s'observe depuis le matin de ce mardi, mais les commerces, banques et écoles restent toujours fermés. Seuls ont ouvert quelques officines pharmaceutiques et alimentation. Dans la commune de Moulekera, à partir du quartier Tamende, les rues et avenues sont toujours barricadées. À Mankampagne, Boutil et Ngongolio, les barricades sont aussi visibles. Quelques motos seulement sont autorisées à circuler, mais pas pour transporter les clients. Les forces de l'ordre, appuyées par les éléments de FARDC, sont positionnées à la jonction des quartiers Matongé et Tamende, toujours dans la commune de Moulekera. À l'intérieur de cette commune, par contre, les manifestants font leur loi. Les commerçants se tiennent devant leurs boutiques comme pour observer l'évolution de la situation, mais n'osent pas les ouvrir par crainte de pillage, comme le disent certains d'entre eux. Toutefois, au petit et grand marché quiloquois, des vivres sont visibles sur quelques étalages tenus par des femmes peu nombreuses. Des clients viennent s'y ravitailler. Pour rappel, 5 jours de ville morte ont été décrétés par la coordination urbaine de la société civile pour mettre les autorités devant leurs responsabilités suite à la montée de l'insécurité dans la ville de Beni. Aucun officiel ne s'est prononcé sur cette situation jusqu'à présent. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Les députés nationaux doivent faire parvenir au président de la République le message de la population de la région de Beni qui ne réclame que la paix. Ces propos sont de Gershom Kahebe, acteur politique congolais indépendant résidant aux États-Unis d'Amérique. Il l'a dit ce mardi en rapport avec les 5 jours de ville morte décrétés par la société civile et les mouvements citoyens de Beni pour dire non à l'insécurité grandissante dans cette région. Gershom Kahebe appelle les autorités congolaises à prendre leurs responsabilités pour mettre fin au cycle de violence qui n'a fait que trop durer dans cette partie du pays. Gershom Kahebe a été joint par Alain Irung.
Cette série de villes mortes en ville de Beni, c'est une expression de la population qui ne veut pas continuer à mourir, mais aussi à vivre dans l'insécurité permanente. Il y a plusieurs cas de tuerie, même en ville de Beni, de cas de cambriolage, de massacres en ville de Beni, mais aussi en territoire de Beni. Alors, les députés nationaux devraient faire en sorte que cette expression de la population parvienne au président de la République, parce que cette population ne veut plus de l'état de siège. Cette population réclame la paix et la sécurité, ce qui est un droit légitime. Et donc, la population de Beni a le droit de vivre aussi en paix et en sécurité, de dormir la nuit et être sûr qu'elle va se réveiller le matin. Et c'est tout ce que cette population réclame maintenant.
Au Sud Kivu, un seigneur de guerre a été condamné à la prison à perpétuité. Le général autoproclamé Ndarumanga était poursuivi pour crimes contre l'humanité commis à Mwenga, Shabunda et Walungu entre 2012 et 2021. Le verdict a été rendu hier, lundi, par le tribunal de garnison d'Uvira, siégeant en chambre foraine à Mwenga. Les détails avec Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
De son vrai nom, Munyololo Mbao, alias Ndarumanga, le général autoproclamé du groupe armé Ndarumanga est condamné à perpétuité pour crimes contre l'humanité par meurtre, viol, esclavage sexuel, emprisonnement et participation au mouvement insurrectionnel. Des faits commis dans le triangle Shabunda-Walungu-Mwenga entre 2012 et 2021. Ndarumanga devra payer dans les 5 jours une somme de 850 000 francs congolais. Il doit faire réparation des préjudices causés aux 122 victimes identifiées. L'État congolais est mis hors cause. Le tribunal de garnison d'Uvira a rendu ce verdict ce lundi 15 mai, à l'issue des audiences en chambre foraine tenues à Mwenga du 8 au 15 mai. Ce procès a bénéficié du soutien de partenaires comme le BCNUDH, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le PNUD et l'organisation Trial. La population de Mwenga se félicite de ce jugement qui devra servir de leçon à tous ceux qui continuent à commettre des exactions sur la population civile. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Une autre condamnation hier, cette fois-ci dans la province de la Tchopo, c'est celle du caporal François Kilongé. Il a été condamné à la peine de mort par le tribunal militaire de garnison de Kisangani. Ce soldat de la force aérienne était poursuivi en procédure de flagrance pour le meurtre de son compagnon de la garde républicaine. Il l'avait criblé de balles samedi dernier alors qu'il était détenu au cachot. Le ministère public s'est dit satisfait de ce verdict alors que l'avocat du condamné promet d'interjeter appel. Signalons que cette audience foraine s'est tenue à la base aérienne de Simisimi où s'est produit le drame. Pénurie de maïs dans le Grand Katanga et le Grand Kasaï, l'ingénieur doctorant André Kangaelako affirme que le maïs est produit en abondance dans la province de la Mongala ainsi que dans celle de la Tchopo. Cet agriculteur et propriétaire d'une plantation dans le territoire d'Isangi, province de la Tchopo, l'a dit ce mardi à Radio Okapi. Il dit être étonné du fait que le gouvernement va chercher le maïs en Afrique australe pendant que dans plusieurs provinces congolaises, le maïs est disponible, mais il se pose seulement un problème d'évacuation. André Kangaelako s'exprime au micro d'Alain Irung.
Le maïs est produit dans la province de la Mongala, et plus précisément dans le territoire de Bomba. Et ce maïs traîne dans des villages pour pouvoir être évacué vers les centres de Bomba et prendre le bateau à destination de Kinshasa de manière à aller vers le sud, notamment les Katanga et les centres, les Kasaï plus précisément. Et quand vous remontez plus haut, dans la province de la Tchopo, dans les secteurs Yalikanzayanong et Turumbu, où le maïs est produit aussi en flot, parce qu'il y a même des bateaux qui arrivent pour les reprendre et ramener sur Kinshasa, qui aillent de mission avec des montants exorbitants, parce que prendre en charge la mission des ministres vers l'Afrique australe ne coûterait pas plus cher que prendre ces maïs en interne du territoire de Bomba, du territoire de Sangui vers Lubumbashi. Ça serait encore moins coûteux. Et en plus, quand on doit prendre les cas de favoriser l'importation des maïs alors que le maïs est produit en interne, nous avons presque toutes les variétés. Nous avons les meilleures variétés, notamment le plantajaune, les dents de cheval, qui sont de maïs de qualité, qui peuvent servir pour la farine du côté du sud.
De son côté, le Programme alimentaire mondial PAM à Kalemie n'achète pas les graines de maïs localement pour éviter de déstabiliser le marché. Cette précision est du chargé de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement au sein du PAM Kalemie. C'était au cours d'une conférence de presse animée hier lundi au chef-lieu du Tanganyika. Younous Belanga répondait ainsi aux accusations de la population contre les agences humanitaires qui, selon elle, achètent des stocks de maïs localement et c'est cela qui créerait la carence en maïs sur le marché local. Younous Langar, chargé de la logistique au PAM Kalemie, est au micro de Paulin Munanga.
Je voudrais rassurer la population de la province de Tanganyika que dans le cadre de nos achats locaux, nous avons signé des contrats avec des fournisseurs qui, eux, à leur niveau, achetaient des grains de maïs de la Zambie. Et ils ont ramené dans le Tanganyika du maïs en grains. Et c'est la transformation de la mouture qui a été faite localement. Donc, le PAM n'achète pas de grains de maïs sur le marché local, que ce soit à Kalemie ou encore sur l'ensemble de provinces de Tanganyika. Nous sommes allés sur cette base en faisant une enquête du marché. Nous ne voulons pas déstabiliser le marché. C'est pourquoi les grains de maïs sont achetés soit en Zambie ou encore nous faisons des achats régionaux de vivres qui viennent directement de Mozambique et certains vivres nutritionnels viennent aussi du port de Mombasa. Donc je ne pense pas que le PAM achète localement pour déstabiliser le marché. Les deux derniers achats que nous avons faits vont jusqu'à 4000 tonnes de vivres. 3000 sont les farines de maïs et les 1000 sont des haricots aussi produits localement mais pas produits à Kalemie.
Au Kasaï oriental, une érosion a coupé en deux la nationale numéro 1 entre les villes de Mbujimayi et Kananga au niveau de Chibombo, à près de 20 km de la ville de Mbujimayi. C'est depuis 4 jours que le passage des véhicules et des motocyclettes a été interrompu. La brigade de l'office des routes est déjà à pied d'œuvre pour rétablir le trafic dans les heures qui viennent, affirme son directeur provincial, Esther Ndalafina.
Cette érosion qui a endommagé la route a perturbé le trafic routier entre les villes de Mbujimayi au Kasaï oriental et de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. L'endroit dégradé ne permet pas le passage des véhicules, des motocyclettes et moins encore des vélos en provenance de Mbujimayi ou de Kananga. Selon les témoins, un gros camion est passé de justesse vendredi dernier, quelques minutes avant cet incident. D'après les directeurs provinciaux de l'office des routes, une brigade est déjà à pied d'œuvre pour rétablir la circulation routière avant la fin de la journée de ce mardi. Marcus Okita signale cependant que la stabilisation de cet endroit nécessite des moyens conséquents pour la construction des collecteurs d'eau ainsi que des caniveaux pouvant stopper la progression de l'érosion. Pour l'instant, un état des besoins est en élaboration pour le financement des grands travaux. Signalons que la route Mbujimayi-Kananga permet les échanges commerciaux de produits vivriers et manufacturés en provenance de Kinshasa et de Kalamba-Mbuji au Kasaï central. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale. Une mission de paix menée par 6 dirigeants africains partira dès que possible en Ukraine et en Russie pour tenter de trouver une solution pacifique au conflit dévastateur, annonce ce mardi du président sud-africain. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont accepté de recevoir la mission et les chefs d'État africains à Moscou et à Kiev, a déclaré Cyril Ramaphosa lors d'une conférence de presse au Cap. La veille, M. Ramaphosa s'était indigné que Pretoria subisse des pressions extraordinaires pour choisir son camp. Proche du Kremlin, depuis l'époque de la lutte contre l'apartheid, l'Afrique du Sud a toujours refusé de condamner l'invasion de l'Ukraine, affirmant rester neutre et vouloir privilégier le dialogue. Cette position a irrité sur la scène internationale. D'autant que Pretoria a accueilli des exercices navals avec la Russie et la Chine en février, peu avant le premier anniversaire de l'invasion russe, ravivant les inquiétudes occidentales. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a été informé du projet de mission de paix africaine et l'a accueilli favorablement, a encore précisé Cyril Ramaphosa.
L'invité.
Notre invité, c'est le président du Festival de communication de l'Université chrétienne bilingue du Congo à Béni. Il va parler du bien fondé des activités organisées dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la lutte contre la désinformation pour les étudiants des facultés des droits et de communication de la ville de Béni. Patient Ibondo s'entretient avec Marc Marofimbo.
Monsieur Patient Ibondo, bonjour.
Bonjour, merci.
Que peut-on retenir de cette activité dénommée Festival de communication que vous venez d'organiser?
Comme ça a toujours été chaque année, on célèbre la date des 3 mai de la liberté d'expression. Ainsi, à notre niveau, nous avons pu organiser cette activité en marge de cette date où nous voulons réunir la crème intellectuelle, les cadres de demain, pour parler aux différents thèmes choisis qui cadrent avec cette date. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons discuté sur les thèmes nationaux dont le ministre lui-même a fait mention dans son dernier discours. Cela nous a permis à ce que les étudiants, les élèves qui sont dans les classes terminales et même d'autres personnalités qui sont invitées là, de comprendre qu'est-ce que le ministre veut parler par rapport au thème national. Ainsi, nous avons appelé aussi des personnes qualifiées dans les domaines pour expliciter, exposer sur ces faits, afin que nous puissions à notre niveau comprendre le bien fondé de ces thèmes dont le ministre a lancé.
Les thèmes à tourner autour des informations et à votre niveau, avec les études et analyses que vous êtes en train de faire ici, quels sont les problèmes autour de la désinformation?
En fait, autour de la désinformation, il y aurait premièrement ce qu'on a toujours constaté dans notre ville. Une fois il y a une fausse information qui circule, il y a difficulté toujours de nier ça, ouais, de donner la vraie version. Parfois on dit c'est trop tard, ou soit on ne veut pas dire la vérité par rapport à ce qui se passe. C'est un défi qui est là. Et bien d'autres, ça peut exister dans des organisations spécifiques. À part la ville de Béni, ça peut exister ailleurs, mais à notre niveau, c'est ce que nous avons constaté. Ainsi, ces thèmes, nous l'avons choisi, en fait que ceux qui sont formés à communication puissent savoir que toute information peut être niée, peut être corrigée, même si c'est diffusé. C'est pourquoi nous avons sélectionné ces thèmes aussi pour expliciter comment ça se fait, quels sont les acteurs, quels sont les enjeux de la désinformation et tout ce qui s'en suivent.
Et ici, ce sont les étudiants des facultés de droit et de communication qui participent à ces festivals. Que peut-on attendre comme retombée de cette activité, comme apport de cette crème intellectuelle dans la lutte contre la désinformation?
Comme vous venez de constater, cette activité, premièrement, ça permet à ce que nous puissions avoir inaperçu par rapport à la désinformation. Deuxième chose, c'est pousser juste et motiver tous ceux qui ont suivi ça et tous ceux qui sont au courant de cette réalité de faire face à cela. Parce que quand il y a une information diffusée qui doit être démentie, après ça, ça doit se faire. Donc, de prendre le courage toujours de monter, donc d'aller à la station devant les microphones et dire que la vraie version de l'information qui a été diffusée, c'est ça et ça, c'est ce qu'on doit faire insister.
Oui. Et alors, comment comptez-vous pérenniser cette activité? Car c'est vraiment une réalité que nous vivons actuellement, la désinformation, avec toutes ses conséquences possibles.
Ok, merci beaucoup pour la question. Comme vous le voyez, chaque année à l'ICBC, il y a toujours cette activité qui est organisée. Et je pense qu'on sélectionne les thèmes en fonction de la réalité qui est dans la société. À part les thèmes nationaux que le gouvernement, soit le ministre de la communication, peut publier, il y a également la réalité. C'est pourquoi le thème de la désinformation, c'est vraiment un thème contextuel à la réalité de sur place. C'est pourquoi à l'ICBC, il y a toujours ces activités, chaque année, pour permettre à ce que des petits problèmes qui existent, qu'on puisse en remédier, en ayant des exposés pareils. Également, on demandera peut-être aux organisations internationales et même des organisations privées d'avoir toujours des formations par rapport à ces genres de réalités, parce que c'est vrai, ça existe dans la société, c'est un défi, pardon. Oui.
Pasteur Bono, nous vous disons merci.
Nous vous remercions à vous.